Bonjour à tous, très heureux de dresser avec vous la table du débat de midi. Ici, toutes les réflexions sont acceptées, on s'en régale et après on se fait un avis. Voilà, c'est la garantie du débat de midi. Digestion, garantie non difficile. Aujourd'hui, on parle environnement, engagement et confrontation en parlant d'un terme très souvent utilisé cette année, la radicalité écologique. Envoyer de la soupe à la tomate sur des tableaux de maître, se coller les mains sur le bitume, provoquer, manifester plus fortement. Certains militants disent que nous n'avons plus le temps de discuter. Il faut agir, oui, mais comment? Alors parfois rejetés, souvent caricaturés comme des lanceurs de diabolo qui cherchent à s'occuper, ces militants offrent aussi à certains une réponse face à un futur qui apparaît déjà en flammes. Au contraire, des militants évoquent aussi des actions qui servent à réveiller face à des actions gouvernementales qu'ils jugent non efficaces. Le phénomène touche de nombreux pays et il prend de l'ampleur. Et même si des ministres désormais évoquent même de l'éco-terrorisme et que certains collectifs sont désormais soumis à des interdictions, voire des dissolutions, alors comment le mouvement écologiste se situe-t-il par rapport à l'action radicale? Faut-il crever les pneus de tous les 4x4 pour sauver la planète? L'avenir politique est-il dans la ZAD? N'hésitez pas à nous donner votre avis via vos notes vocales et messages sur l'appli France Inter, également par WhatsApp au numéro suivant 07 64 13 70 07 07 64 13 70 07 sur France Inter. On explore la galaxie radicale écolo sans gaz lacrymogène à craindre pour les yeux. Le débat de midi, ça commence tout de suite.
Jean-Mathieu Pernin. Le débat de midi sur France Inter.
Et pour en parler, nous recevons Laurence Venn. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe du programme, directrice de la communication de Greenpeace France. Léna Lazare, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole des soulèvements de la Terre, dont on parle beaucoup en ce moment, puisque vous attendez toujours la décision du Conseil d'État concernant votre recours sur la dissolution du collectif. Et puis en direct depuis France Bleu Isère, dont nous remercions les services pour cette liaison, Stéphane Labranche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du climat, coordinateur scientifique du GIEC IPBC, groupe d'experts sur l'évolution des comportements, membre donc du GIEC. On va parler donc de radicalité politique, alors forcément écologique aussi, qui peut être politique. Alors forcément, je me tourne vers vous, Léna Lazare, quand on parle de radicalité écologique, notamment par rapport, on en a beaucoup évoqué cette année, collectif de soulèvement de la Terre, pour vous, est-ce que vous avez l'impression d'être une militante radicale?
Mais en effet, c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé déjà depuis plusieurs années, notamment lorsque j'étais uniquement activiste chez Youth for Climate, le mouvement des jeunes en grève pour le climat. Et si on parle de radicalité, donc c'est-à-dire le fait de revenir aux racines du problème, c'est que malheureusement, on entend parler d'écologie dans toutes les bouches, et l'écologie donc peut être associée en fait uniquement à du greenwashing, à des mesures qui sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de radicalité.
D'accord, radicalité pour vous. Et ce terme, Laurence Venn, pour vous, il est important. Et surtout, comment vous, chez Greenpeace France, comment vous regardez ces mouvements qui sont aujourd'hui radicaux et qui se disent carrément, on n'a plus le temps de débattre, on n'a plus le temps de discuter, il faut agir?
Alors, nous, on se retrouve complètement dans le terme radicalité, dans le sens étymologique que Léna a rappelé, c'est-à-dire prendre les problèmes à la racine. Et là, aujourd'hui, c'est ce dont il s'agit, c'est-à-dire qu'il faut prendre les problèmes à la racine, il faut transformer le système si on veut vraiment répondre aux enjeux environnementaux et à l'urgence climatique actuelle. Donc nous, on se retrouve évidemment complètement, et Greenpeace revendique quand même 50 ans d'action directe non violente. Donc je pense que voilà, on est né dans des actions radicales. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les actions radicales, elles viennent quand l'échange, quand la discussion, quand les négociations n'ont mené à rien. Donc, en tout cas, à Greenpeace, c'est vraiment le sens, quand on mène des actions directes non violentes, quand on mène des actions de désobéissance civile, c'est parce que les rapports n'ont pas servi, c'est parce que les échanges avec les politiques n'ont mené à aucune vraiment réelle mesure politique. Et en fait, c'est ce qui se passe là aujourd'hui.
Alors, crevons l'abcès tout de suite. Léna Lazare, justement, ce mot de violence qui revient souvent à l'égard, notamment collectif de soulèvement de la Terre, ou d'autres d'ailleurs mouvements, quand on parle aujourd'hui, une désobéissance civile qui irait un peu plus loin que les simples sittings ou bloquer la circulation.
C'est vrai que on entend beaucoup parler de violence pour parler de choses très très différentes. Et lorsqu'on pose la question sur la violence des soulèvements de la Terre, je suis toujours un peu embêtée parce que on nous reproche notamment de la violence envers les biens. Et juridiquement, ça n'existe pas. Et en effet, dans le mouvement écologiste, il y a eu toujours cette ligne rouge de ne pas s'en prendre, de ne pas cibler des individus. Mais par contre, il y a toujours eu des actions avec des dégradations matérielles, comme celles qu'on a notamment portées en allant débâcher une méga bassine illégale il y a quelques mois. Et donc, moi, je trouve que la violence, elle n'est pas du tout du côté des militants écologistes. Nous vivons dans une société extrêmement violente pour les êtres vivants. Et malheureusement, si on n'agit pas à la hauteur des enjeux face au dérèglement climatique, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de souffrances dans ce monde. Donc c'est vrai que parler de violence, alors que nous, on fait des actions pour alerter, qui certes, des fois, dégradent du matériel, alors qu'à côté, il y a déjà des personnes qui meurent du dérèglement climatique, je trouve ça assez grave.
Alors, Stéphane Labranche, vous-même, en tant que sociologue du climat, est-ce que ce genre d'action portée aujourd'hui par des écologistes, je le dis, radicaux, est-ce que pour vous, il y a une utilité?
Oui, mais elle est multiple et elle peut parfois être contre-productive. Alors, juste une petite correction, c'est je suis quand même coordonnateur scientifique du GIECO, qui est un groupe international d'experts sur les changements de comportement, et c'est pas sur le climat. Et donc, parmi nous, on parle beaucoup de ces questions-là, bien entendu. Et en fait, les actions radicales doivent être considérées comme une forme de communication. Et quand on regarde une peinture et qu'on dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, ben c'est vrai aussi de celui qui écoute un message. Et donc, quand on regarde ça, et on regarde surtout les différentes réactions allant de la criminalisation de la désobéissance civile qui est en discussion, le terme d'éco-terroriste qui est quand même pas rien du tout, qui est très violent. Et ensuite, on regarde aussi au niveau quotidien les réactions des individus. Je pense par exemple quand on voit une scène où les gens se collent les écologistes se collent les mains sur la route et il y a des voitures qui arrivent et qui veulent pousser physiquement la personne. Une autre personne qui dit « J'aimerais que vous mouriez de froid en étant en hiver », il jette de l'eau froide sur la personne. On a un niveau de réaction qui est très, très violente. Et moi, ce que je vois, c'est souvent des réactions de « Maintenant, dans le court terme, je dois aller chercher mon enfant, je vais être en retard au boulot, je vais me faire engueuler par mon patron. » Et en fait, il y a des gens qui disent que dans 30 ans, ça va mal se passer. Et donc, il y a une différence dans la conception du temps là qui est très importante. Est-ce qu'ils ont raison de faire ça? Je pense qu'une certaine manière, oui, parce qu'on en parle énormément dans les médias depuis quelques mois. En revanche, on parle surtout des modes d'action, on ne parle pas de la cause fondamentale de la crise écologique. On en parle moins de ça. Les médias ont tendance à se focaliser sur voici les types d'actions, le jus de tomate, le machin, le truc. Mais derrière, on tend à oublier un peu les raisons fondamentales de la crise écologique, de la biodiversité et du climat.
Voilà, Léna Lazare, est-ce que finalement, ce ne sont pas plus des exercices de communication, voire des happenings qui focalisent davantage que la cause dont ils parlent?
Je suis pas d'accord parce que au sein des soulèvements de la terre par exemple, grâce à nos actions impactantes vis-à-vis des méga bassines, on a pu faire connaître à une grande partie de la population ce qu'étaient les méga bassines. Il y a 2 ans, donc c'était encore, je pense pour beaucoup, qu'un débat entre agriculteurs sur les types d'irrigation et toutes ces notions d'accaparement de l'eau, etc. Et tout ce qui se joue en ce moment, je pense que si on n'avait pas fait des actions de désobéissance civile percutante, on n'en parlerait pas. Donc certes, on a beaucoup parlé de la violence des soulèvements et malheureusement, on rentre toujours dans le jeu où il faut répondre aux accusations graves d'éco-terrorisme, etc., de criminalité du gouvernement. Mais pour moi, le fait que le discours se déplace, c'est de la faute en fait de l'exécutif qui, en effet, n'a pas arrêté d'avoir un récit policier criminalisant vis-à-vis des activistes. Et ensuite, je trouve que c'est plus que des opérations de communication quand même, parce que moi, je crois fort en une vague de résistance populaire où des habitants dans des luttes locales vont faire en sorte, en fait, de mettre à l'arrêt les infrastructures qui détruisent le vivant, parfois dans l'illégalité. On l'a vu avec la méga bassine qu'on a débâchée il y a quelques mois. Et que donc, ça peut avoir un impact très concret au-delà de la campagne de communication qu'il peut y avoir autour.
Voilà. Après, tout de même, il y a eu à Sainte-Soline, on se souvient quand même de l'affrontement aussi avec les forces de l'ordre. Et c'est là aussi où ça avait pu dégénérer. Et c'est là où on a vu qu'il pouvait y avoir des éléments qui pouvaient être plus radicaux que d'autres.
Oui, en effet, là je parle des modes d'action qui sont revendiqués par les soulèvements de la terre, c'est-à-dire les occupations, les blocages et nous ce qu'on appelle des actions de désarmement, donc des actions de démantèlement d'infrastructures polluantes. Ensuite, les affrontements avec les forces de l'ordre, pour moi c'est un autre sujet et malheureusement c'est quelque chose qu'on constate beaucoup en manifestation, dans toutes les manifestations d'ampleur et... Voilà, on pourra en discuter, alors, mais c'est pas ce qu'on défend de base. Voilà.
Dans un instant, Laurence, mais je voudrais juste faire réagir Stéphane Labranche, vous vouliez réagir à ce que disait Léna Lazare.
Oui, en fait, je parlais surtout de la manière dont les médias s'emparent de ces types d'enjeux. Mais pour ma part, alors là, je vous rejoins complètement. J'utilise cet enjeu des bassines pour pouvoir parler de l'enjeu de l'eau qui revient à la. Je vous rappelle, à la fin des années 90, l'ONU avait déclaré le 21e siècle, le siècle de l'eau. Le changement climatique est arrivé. On en a beaucoup moins parlé. Et ben là, je peux vous dire que dans les 10 prochaines années, on va en reparler beaucoup plus. Et donc ça, c'est une vraie opportunité pour parler d'un enjeu fondamental.
Laurence Venn, il est vrai que Greenpeace, on se souvient de certaines actions qui avaient marqué, notamment en bloquant le port de Marseille face à des pêcheurs sur le thon rouge, face notamment sur le nucléaire. Est-ce que vous, on comprenait bien ces actions-là ? Parce que il y avait une cible, vous expliquiez aussi la chose. Quand en effet des activistes jettent de la soupe sur un Van Gogh, est-ce que vous comprenez, vous, cette action ? Parce que alors là, on a du mal à saisir, vous voyez, on a l'impression que c'est moins concret.
Oui, alors bien sûr, déjà, je rappelle, nous, que vraiment Greenpeace est totalement solidaire, en fait, de ces mouvements de jeunes, souvent, qui essayent de provoquer, en fait, la réflexion au sein de l'opinion publique sur ce qui se passe.
Pour vous, aller provoquer cette réflexion, parce qu'on a l'impression de se concentrer juste sur des gens qui jettent de la peinture et ne pas savoir pourquoi ils le font, en fait.
Écoutez, je pense que s'il y a eu une telle couverture médiatique, Stéphane Abranche le rappelait, oui, on a parlé beaucoup de ces actions, c'est qu'ils essayent, en fait, par tous les moyens, de lancer l'alerte sur donc ils font preuve de créativité. Il faut rappeler que c'est des œuvres d'art qui étaient protégées par des
vitres. Bien sûr.
Donc, il n'y a eu aucune dégradation des œuvres. Donc, oui, nous, on comprend, en fait, que dans le contexte d'urgence dans lequel on est, les jeunes ne veulent pas se résigner et cherchent par tous les moyens à lancer l'alerte, en fait, sur ce qui se passe. Donc, oui, c'est pas ce type d'action que Greenpeace effectivement réalise depuis des années, mais nous, on est solidaires et on comprend complètement. Et je voudrais aussi rappeler par rapport à ce que disait Stéphane Lambranche tout à l'heure, ces actions, elles n'ont pas pour but de recueillir l'approbation de l'ensemble de la population. Elles sont vraiment là aussi pour créer de la polémique et du débat. Et effectivement, c'est pour ça aussi qu'on en parle. Et l'objectif, à mon sens, de ces actions, c'est de commencer à faire réfléchir l'opinion publique. Sur le coup, c'est assez logique, en fait, que ça remue, ça peut indigner, etc. Mais il faut voir les résultats sur le long terme. Et il faut, je pense, aussi reprendre dans une perspective historique. Les suffragettes, quand elles ont fait leur travail pour exiger le droit de vote, ça a été sur plusieurs années, et elles étaient jugées comme et vues comme des radicales. Martin Luther King, je pense qu'il était aussi vu comme un radical au début. Donc il faut vraiment aussi prendre un peu de recul et essayer de se détacher de l'émotion et de l'indignation qu'on peut avoir sur le coup, pour voir aussi tout ce que ces mouvements peuvent apporter aussi comme prise de conscience pour accélérer, là, aujourd'hui, l'action climatique.
Alors, Léna Lazare, il y a François Gémen, qu'on connaît, hein, co-auteur rapport du GIEC, qui explique qu'il répétait qu'en boucle que personne ne fait rien par rapport au climat, participe à décourager ceux qui font, qui se battent. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que, à force de répéter, véritablement de dire, par exemple, en effet, les gouvernants ou d'autres associations ne font rien, bah finalement, ça veut dire au niveau de la population, en effet, personne ne fait rien ?
Non, mais nous, via nos actions, je pense qu'on pointe toujours les responsables, c'est-à-dire les pouvoirs politiques et économiques. Pour moi, on n'arrivera pas à une société juste et écologique uniquement par les changements individuels. Et puis on voit bien que ces changements individuels, ils sont restreints par le système. Il y a plein de personnes qui peuvent pas structurellement avoir un mode de vie autant écolo qu'ils le souhaiteraient. Enfin, notamment, voilà, être obligé de faire des bornes et des bornes pour aller au travail en voiture individuelle. On pourrait donner plein d'exemples. Du coup, je suis pas forcément d'accord avec ça. Après, je suis d'accord que des fois, ça peut avoir un côté un peu décourageant, mais j'ai l'impression que le mouvement climat, ces dernières années, justement, a pointé du doigt les responsables, et que maintenant, c'est plus clair, parce que lorsqu'on sait pas, en fait, qui est à l'origine de la crise climatique, qui a les leviers pour changer les choses, des fois, on est justement totalement perdu, on se dit, oh là là, mais moi, je fais de mon mieux chez moi, avec mes petits éco-gestes, mais on voit que rien ne bouge, et je trouve que comprendre, en fait, voilà, comment la société fonctionne, justement, ça permet d'avoir de la détermination, et de comprendre comment on peut remporter des victoires.
Laurence Venn, sur cette phrase aussi là de François Gémen, ça décourage, à force de dire que personne ne fait rien, ça peut décourager les bonnes intentions.
Oui, je pense qu'il faut relativiser. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde essaye à son niveau de voir comment il peut faire quelque chose. Mais effectivement, si tout le monde fait des petits gestes dans son quotidien, ça ne sera que maximum 30% du problème, de 30% des émissions qu'il faut réduire. Donc aujourd'hui, la responsabilité, elle est clairement du côté des politiques pour contraindre les entreprises à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Quand on voit qu'on a encore des multinationales, des énergies fossiles, qui dont le modèle économique est basé à 90% sur les énergies fossiles comme Total, et qu'elles continuent à faire des super profits et qu'il n'y a... qu'on continue à investir et à subventionner ce secteur, on comprend aujourd'hui que c'est aux politiques d'agir. Donc oui, tout le monde doit faire quelque chose parce que ça a un effet d'entraînement et qu'il faut réellement aussi réaliser qu'on va tous devoir changer nos façons de vivre et le réaliser. C'est aussi pour ça que ces actions-là, en fait, nous font peur. C'est parce qu'on sait que notre mode de vie va être remis en question.
C'est ça,
mais c'est une question aussi, c'est une question existentielle. C'est-à-dire, il en va de notre survie, en fait, sur la Terre et celle de nos enfants.
On va écouter justement une note vocale laissée sur l'appli Inter et c'est Pierre hein, qui est lui ingénieur écologue, donc il sait aussi un petit peu de quoi il parle et vous allez voir justement, il parle de cet engagement radical. On écoute la note vocale de Pierrot.
Bonjour, c'est Pierrot Pantel, je suis chargé de mission juridique à l'Association Nationale pour la Biodiversité et je suis par ailleurs ingénieur écologue. La situation aujourd'hui, elle est catastrophique, elle est même cataclysmique. Donc les extrémistes environnementaux, finalement, ce sont les industriels et les politiques. Dans l'état actuel des choses, ne pas être radical, c'est une forme de coquetterie occidentale. Ne pas avoir le cœur bouillant aujourd'hui, c'est choisir de ne pas comprendre ce qui se passe sous nos yeux. C'est choisir d'occulter la réalité, un peu comme cette statuette de singe qui se masque le visage. Donc si notre loyauté aujourd'hui va envers les espèces sauvages plutôt qu'envers le monde industriel, effectivement, la radicalité ne se questionne même pas. Nous n'avons plus le choix.
Voilà, Léna Lazare, j'imagine que vous partagez ce constat, non ? Nous n'avons plus le choix.
C'est sûr qu'il faut agir. Et en fait, je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent font partie des premières concernées et sont sans doute pas celles qui participent activement, en tout cas, à faire perpétuer ce système économique destructeur du vivant. Enfin voilà, ils sont pas dans les pouvoirs politiques et économiques haut placés, en tout cas dans ces structures là et en fait on sait très bien que nous en France on va pas être les premiers à subir les conséquences du dérèglement climatique, mais en fait que voilà, plus moins on est aisé, plus on va être on va subir en tout cas les effets du dérèglement climatique et on sait que qu'au final globalement on va quand même être on va tous être concernés et qu'on sait très bien là qu'il va y avoir aussi des effets conséquents en France, notamment au niveau de la sécheresse, etc. Enfin on le voit déjà, donc là il y a pas d'autre choix que de s'engager dans une action collective, selon moi,
collective et donc aussi radicale. Stéphane Labranche, pour vous cette radicalité chez certains militants écologistes, on peut la dater ou pas, ou elle a toujours un peu existé? On l'a vu avec Greenpeace, une certaine forme aussi. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut dire que les plus jeunes qui se radicalisent, dont certains écologistes, sont les enfants de Greenpeace?
Alors, c'est drôle que vous posiez la question, parce qu'il y a une autre personne qui est assez connue dans le domaine.
C'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez...
Avec Dominique Bourg et moi, on discute depuis 2008 de la montée de la radicalité écologique. On ne la voyait pas arriver. Et c'est à partir de 2015-2016 qu'on a commencé à voir quelque chose vraiment émerger de manière plus forte, pas juste anecdotique, mais vraiment passer dans les médias avec beaucoup plus de monde. Et en fait, ce qui nous a surpris, c'est que ça prenne autant de temps. C'est pas l'inverse.
Ah oui, d'accord.
Oui, oui. Et pour moi, c'est associé à autre chose, c'est une partie des jeunes qui étaient complètement sortis du monde associatif traditionnel écolo, qui s'y retrouvaient pas et qui ont commencé à créer leurs propres associations, leurs propres associations biodiversité, climat, avec des modes d'action différents et avec des questionnements assez profonds. La radicalité écologique, c'est pas juste me coller les mains, c'est de penser de manière profonde le fonctionnement de la société. Est-ce que j'accepte le système capitaliste productiviste? Ça, il y a beaucoup de gens qui questionnent. Il y a moins de gens qui questionnent le système de consommation de confort dans lequel on est arrivé. Et par confort, je veux dire être capable de changer de téléphone portable tous les ans, de changer de télé. Est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Donc, ces questionnements-là, radicaux quand même soulève la question de comment je vis au quotidien, avec quoi je suis confortable, qu'est-ce que je considère comme étant un bien essentiel ou un service ou une liberté. Est-ce que c'est une liberté de pouvoir acheter un téléphone portable tous les 2 ans? Je suis pas sûr. Et donc, c'est pour ça que les questions sont fondamentales et je pense qu'inconsciemment, émotionnellement, c'est pour ça que ça suscite des réactions aussi violentes.
On va continuer à parler justement de cette radicalité dans le mouvement écologiste dans un instant, mais tout de suite, on va s'écouter Otis Cœur avec Labrador.
J'ai décidé de ne plus jamais te suivre. Laisser tomber les schémas et prendre la fuite. Un pas de côté, j'ai quitté la piste. N'essaie pas de m'attraper, raye-moi de ta liste.
Le débat de midi, nous parlons de radicalité écologique. Est-ce que cette démarche peut aider à sauver la planète? N'hésitez pas à réagir via l'appli France Inter pour nous laisser vos notes vocales ainsi que vos messages. Vous pouvez également réagir par WhatsApp au 07 64 13 70 07 07 64 13 70 07. Et pour en parler autour de la belle table du débat de midi, nous avons Laurence Venn, qui est donc directrice de la communication de Greenpeace France, Léna Lazare, porte-parole des Soulèvements de la Terre, et puis Stéphane Labranche, sociologue du climat. Tiens, d'ailleurs, sur l'appli Inter, il y a Lauriane qui nous a laissé ce message. Alors bon, c'est une réaction un peu radicale. Alors elle va dire, moi je ne suis pas pour les actions violentes, mais quand je lis qu'on va mettre à l'eau un paquebot qui va transporter 10 000 passagers, me viennent des envies de plasticage. Voilà, bon, c'est un peu radical, hein. Mais c'est vrai que Laurence Venn, même si on ne s'engage pas, on a un peu aussi, c'est vrai, ce genre de réaction quand on voit des choses qui nous paraissent insupportables, pour reprendre l'expression du film Don't Look Up. En effet, quand on voit ces histoires de paquebots, quand on voit en effet qu'on crée encore plus d'engins pour polluer et que nous-mêmes on va utiliser, mais sur le moment on est choqué et donc là on a envie peut-être aussi de faire des choses, d'être plus radical finalement, inconsciemment.
Oui, alors bien sûr. Alors, il y a deux choses. Donc, je rappelle vraiment qu'il faut distinguer ce qui est violent de ce qui est radical. Vraiment. Donc ça, c'est important, puisque on peut être radical et non violent, puisque voilà, c'est ce que nous, Greenpeace,
Vous êtes inscrit dedans.
Nous sommes inscrits dans ce volet-là. Et après, il faut effectivement reprendre un peu de recul et se dire qu'est-ce qui est violent vraiment aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas de laisser, encore une fois, des industries fossiles ravager la planète et compromettre notre avenir ? Où est la réelle violence aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est vraiment inacceptable ?
Alors, je pense que
ça, c'est vraiment... Et de voir qu'on a vraiment un paradoxe où aujourd'hui, ce sont des militants écologistes qui sont qualifiés d'éco-terrorisme et qu'à côté de ça, on donne la Légion d'honneur à Patrick Pouyanné, qui est quand même à la tête d'une multinationale du pétrole et du gaz. Et on sait bien que ce sont les énergies aujourd'hui qui sont responsables de 86% des émissions de gaz à effet de serre.
Donc, alors, Laurence Venn, pour être très concret, beaucoup de gens aussi se disent, ah ben voilà, aujourd'hui, en effet, il y a des gens qui sont plus radicaux que d'autres. Mais à quoi ça sert clairement, aujourd'hui, par exemple, quand Greenpeace perturbe, vous en parliez là justement de Total Energy, perturbe l'Assemblée Générale de Total Energy. À quoi ça sert ?
À quoi ça sert ? Alors déjà, on n'était pas seuls, puisque c'était vraiment un collectif. Donc, on était avec les Amis de la Terre, avec ANV COP21, il y avait Extinction Rebellion. Enfin, voilà, on agit... Ça sert vraiment à expliquer qu'aujourd'hui, au moment de l'Assemblée Générale, donc qui réunit les investisseurs de Total, de dire... On ne peut plus continuer à laisser Total dire que c'est la major responsable de l'énergie. Ce n'est plus possible. Donc c'est vraiment aussi pour dénoncer le greenwashing de ces entreprises qui nous font croire que le gaz est une énergie de transition, qu'ils investissent dans les énergies renouvelables, alors que la réalité, et on la voit, c'est 90% des investissements dans les énergies fossiles et que c'est un modèle économique vraiment qui nous mène à notre perte. Alors que l'Agence internationale de l'énergie a dit que pour respecter en fait les objectifs de l'accord de Paris, plus aucune infrastructure pétrolière, gazière ou de charbon ne doit être ouverte. Donc voilà, on ne peut plus en fait se permettre ça. Donc de faire des happenings devant et de bloquer l'Assemblée générale de Total, c'est pour rappeler ce message-là, pour ne pas laisser le business as usual, comme on dit, donc de le laisser faire sans élever la voix, parce le temps presse.
Léna Lazare, véritablement, vous l'avez dit au départ, vous étiez engagée, donc Youth for Climate. Aujourd'hui, de vouloir pousser un peu plus loin votre volonté d'action, ça veut dire que vous croyez véritablement que ces actions peuvent faire changer la donne. C'est-à-dire que quand vous organisez une manifestation ou quand vous débâchez en effet des grandes bassines d'eau, ça veut dire que vous pensez vraiment que le gouvernement va vous entendre et changer?
Bah oui, c'est le cas. Enfin, en fait, moi, j'ai fait mon lycée à La Rochelle, donc à 30 minutes des premières bassines qui ont été construites. Quand j'étais au lycée, franchement, à part les personnes du coin, etc., personne n'en avait entendu parler. Et en plus, on se rendait compte que personne n'écoutait les militants. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur la plupart des projets polluants et imposés contre lesquels on se bat au soulèvement de la Terre, souvent il y a un véritable déni de démocratie. Il y a des consultations publiques, les gens sont majoritairement contre, mais ça passe quand même en force. Et c'est vraiment le cas de ces méga bassines. Et là, depuis qu'on a commencé à faire des manifestations d'ampleur nationale, mais aussi à faire des actions de désobéissance civile qui ont fait perdre quand même pas mal d'argent à la COP de l'eau, parce qu'il y a 13 mégabassines qui ont été débâchées. Il n'y en a qu'une qui a été débâchée par les soulèvements de la Terre. Mais voilà, il y a un mouvement de fond local contre ces infrastructures-là. Mais on voit que toutes ces actions, en tout cas conjointes, laquelle est la plus efficace et laquelle fait plier le gouvernement? Je pense qu'il n'y a pas un mode d'action en fait qui permet de faire entendre ces revendications. C'est toute une constellation d'actions et de groupes qui vont dans le même sens et ce qui se coordonne. Mais en tout cas, là, ils commencent à reculer sur les mégabassines. Il y a plusieurs institutions de l'eau qui disent en fait il faudrait y aller vers ce moratoire. Peut-être que une fois qu'on aura fini les trois qui sont vraiment planifiés, on va stopper le projet. Et ça, c'était totalement inconcevable quand j'étais au lycée et que pourtant la plupart des gens étaient déjà indignés contre les mégabassines.
Stéphane Labranche, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un projet ou est-ce que la radicalité écologique a déjà fait avancer une cause ?
Ah ben, l'exemple qui vient d'être donné pour moi. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu le cas, c'était Greenpeace, je me souviens bien, en Angleterre, qui avait dégradé, c'est-à-dire avec des grands graffitis et des drapeaux, une cheminée d'une centrale thermique, donc à charbon. Ils ont été arrêtés, c'est allé en cour, et la Cour de justice avait décidé que c'était pour le bien commun de l'humanité, et donc ils n'étaient pas coupables. Et en fait, on voit ce type de... C'est une chose que je voulais soulever, un point que je voulais soulever, mais partout dans le monde maintenant, il y a plein de cas judiciaire, en justice, d'associations, de citoyens, etc., qui tentent d'amener soit des entreprises, soit leur gouvernement en cours pour dire « vous faites pas assez ». Et ça, ça fait partie justement de cette constellation dont parlait tout à l'heure. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je crois vraiment que la meilleure façon de faire, ce n'est pas de ne pas rechercher une seule solution ou une seule méthode ou un seul mode de communication pour arriver à des fins. Ça ne marche pas. Il y a une diversité incroyable dans la population, d'intérêts, de préoccupations, de machins, de trucs. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'avoir cette diversité de modes de communication, puis aussi de modes d'action. Mmh. Ensuite, c'est à nous, en tant qu'individus, de nous poser nos propres limites sur ce qu'on a envie de faire ou pas.
Stéphane Labrolle, est-ce que vous diriez, par exemple, que l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'est un succès de l'écologie radicale ?
Je dirais que s'il n'y avait pas eu ces actions, il y aurait probablement eu un aéroport.
Oui, c'est ça. Laurence Venn, on peut le dire, là, par exemple, cette ZAD qui s'était organisée, montée, oui.
Bien sûr, mais c'est comme le projet Europa City également.
Au nord de Paris, oui.
Voilà, donc réellement, et bon, quand on a dégradé, vous en parliez tout à l'heure, des filets de pêche dans le cadre de notre campagne au thon rouge, ça a amené à une réduction drastique des quotas de pêche de thon. Mmh. Quand les faucheurs OGM, qui est une forme de dégradation, se sont mobilisés, donc un combat qu'on a évidemment aussi beaucoup soutenu, ça a amené quand même la victoire qui est qu'aujourd'hui, les consommateurs européens ne trouvent pas d'OGM dans leur assiette. Hein, mmh. C'était en 2015. Donc, bien sûr, c'est des actions qui ont été vues comme radicales au moment où elles ont été menées, mais qui ont eu un impact réel pour les consommateurs.
Léna Lazard, d'après vous, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se faire entendre sans radicalité? Je prends exprès ce terme, voilà, comme ça, sans radicalité, ou est-ce que ça veut dire aussi ça correspond à la société dans laquelle nous voyons, c'est-à-dire aussi bien au niveau politique, parfois dans nos rapports aussi. Est-ce que nous sommes dans une société qui se durcit un peu, pour vous, est-ce qu'on peut se faire entendre sans radicalité?
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des revendications radicales, dans le sens où, pour moi, des revendications qui ne sont pas radicales ne sont pas à la hauteur des enjeux. Mais par contre, sur les modes d'action plus offensifs, on est très content qu'on n'a pas à désobéir et qu'on gagne contre un projet polluant et imposé, ou qu'on permet d'influencer une législation. Mais parfois, c'est le cas. On gagne grâce à des recours juridiques, on gagne grâce à des parlementaires d'opposition. Mais malheureusement, il y a plein de luttes où il faut passer à d'autres modes d'action, il faut aller bloquer des chantiers, il faut aller occuper des terres qui vont être artificialisées si on ne le fait pas. Et on voit en effet que dans de nombreuses luttes, on a cité Notre-Dame-des-Landes, mais on pourrait citer le Larzac, on pourrait citer Plogoff, si on parle des grandes luttes.
Alors, rappelez Plogoff ce que c'est pour
Plogoff,
dans les années 70.
C'est dans les années 70, c'est une lutte contre une centrale nucléaire. En Bretagne, et il y a eu notamment des actions, voilà, d'occupation de chantiers, etc. Enfin, le mouvement anti-nucléaire a été sans doute le premier gros mouvement écologiste de masse en France. Il y a eu plein d'actions percutantes et très, très intéressantes, parfois beaucoup plus radicales d'ailleurs que celles prônées par les soulèvements de la Terre, parce qu'il y a la mère de l'écoféminisme, Françoise Daubonne, qui a été quand même jusqu'à poser des bombes dans un chantier, donc voilà, les années 70, autre époque. Oui. Mais aussi pour dire que, d'ailleurs, peut-être qu'on a un renouveau de la radicalité, mais que dans le mouvement écologiste, il y a toujours eu des actions assez radicales, mais avec cette limite de ne pas s'en prendre aux personnes. Donc bon, c'est assez intéressant à resituer historiquement.
Ce qui est assez intéressant aussi, Stéphane Labranche, c'est que là, on parle avec deux personnes françaises, Soulèvement de la Terre et Greenpeace, mais on voit ces mouvements qui éclos un peu partout en Europe. Hein. On a vu justement, alors on le voit en Angleterre, Extinction Rebellion ou d'autres contre l'exploitation du pétrole. On en voit en Italie, on en voit en Allemagne aussi, avec en Allemagne un groupe assez fort. Ça veut dire que c'est aujourd'hui le combat d'une génération,
oh,
cette radicalité.
Absolument. Moi, je fais des tests de radicalité écologique dans mon cours depuis une vingtaine d'années, et je vois une montée en radicalité de la pensée et des modes d'action qui sont préconisés parmi mes étudiants. Et je l'ai vu à partir de 2009-2010, à partir de l'échec de Copenhague, donc de la négociation internationale sur le changement climatique qui a échoué. Heureusement qu'il y a eu celle de Paris en 2015 après. Ouais. Mais bon. Et on voit une augmentation un renforcement et une amélioration des stratégies. Renforcement des techniques aussi, du passage de culture. Ben voici ce qu'on a fait là, ça n'a pas fonctionné parce que, et donc maintenant on apprend aux autres à le faire correctement. Et donc ça devient un système, en fait. Ça devient pour moi un vrai phénomène de société qui vaut vraiment la peine d'être analysé, non seulement sociologiquement, mais aussi psychocognitivement. Quels sont les moteurs de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse qui sont derrière ça? Parce que, juste pour rappel, quand on est angoissé face à quelque chose, la réaction de base pour le cerveau, c'est l'ignorer et de faire l'autruche.
Pour vous, il y a un rapprochement entre engagement radical et, par exemple, ce qu'on a appelé l'éco-anxiété?
C'est ce qu'on a trouvé, en tout cas. C'est une manière constructive, active, de gérer une angoisse plutôt que de la nier. Mais j'ai quand même rencontré 2-3 écologistes qui, eux-mêmes, s'appelaient radicaux, qui avaient fait partie de certains de ces mouvements et qui ont abandonné la lutte et qui se disent « Bon, il me reste 10 ans pour voyager parce que ça va être foutu après, donc je prends l'avion et je me barre. » Et ça, c'est un petit peu inquiétant. Donc, il y a une vraie diversité, en fait, des réactions. Mais il est clair, demandez n'importe quel psy, hein. Ça, c'est un peu bizarre, mais face à une angoisse, si vous agissez, ben, ça réduit l'angoisse.
Ouais, c'est ça. En effet. Alors, Laurence Bagny, il y a Julien sur l'appli Inter qui nous laisse ce message. Dans une démocratie, c'est aux citoyens d'entraîner les politiques. Si les citoyens veulent continuer à utiliser la voiture individuelle, consommer de manière déraisonnable, la politique ira dans son sens. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, les gouvernements ne font pas assez, mais il est vrai que nous aussi, en fait, on doit être mis dans la balance et agir aussi de notre manière, dans nos quotidiens.
Oui, mais... Encore une fois, je pense que les citoyens, ils ont envie d'agir. Tous les sondages ces dernières années montrent que les citoyens sont prêts à en faire plus, que les citoyens sont prêts aussi à changer leur mode de vie. Donc il y a vraiment ce désir. Alors, juste pour parler sur l'exemple du 110 km/h, on sait que ça a un impact réel.
De passer de 130 à
110 sur les autoroutes.
Oui.
Alors, ça a été une polémique, c'était une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat qui a été tout de suite mise, écartée par Emmanuel Macron et en brandissant un joker. Alors qu'on a vu qu'en fait, il y a une majorité de l'opinion publique qui était favorable. Alors, courte, certes, mais qui était favorable à ça. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une frilosité, une peur des politiques à mettre en œuvre des transformations qui sont pourtant attendues aujourd'hui par l'opinion publique. Mmh. Donc, c'est ça aussi le paradoxe dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Et Stéphane Labranche, vous vouliez réagir?
Ouais, là, je suis pas d'accord. Les gens déclarent vouloir faire des changements. Quand on leur demande ce qu'ils font à la maison, des enquêtes globales dans plus de 24 pays l'ont montré, la première action menée contre le changement climatique, et c'est les gens qui répondent, c'est de faire le tri. Donc, on n'ira pas loin en faisant le tri contre le changement climatique. Et puis, plus une action comme devenir végétarien, faire de la rénovation énergétique de son bâtiment est impliquante, coûtante, en termes d'efforts cognitifs, d'efforts de changement de vie, moins elle est appliquée. Puis, en plus, moi, je bosse beaucoup avec des collectivités territoriales qui ont envie d'aller beaucoup plus vite et qui sont constamment stoppées et freinées par des populations qui ne veulent pas d'arbres dans leur centre-ville parce que ça fait rentrer les insectes par la fenêtre. C'est pas qu'une anecdote, c'est une réalité.
C'est vrai, Laurence Bellas.
Il y a une vraie diversité, hein.
Ouais, c'est ça. On voit un exemple très concret, là.
Tout à fait. Mais je pense qu'en fait, c'est une question d'accompagnement. Voilà, Stéphane Labranche parle par exemple de la rénovation énergétique des bâtiments. Ça coûte extrêmement cher. Donc forcément, les citoyens n'ont pas les moyens, pour l'immense majorité, de mener ces transformations sans être accompagnés. Donc le rôle du politique, c'est l'accompagnement, de pouvoir aussi changer son mode de transport. Personne ne veut quitter, abandonner sa voiture individuelle s'il n'y a pas une alternative qui est proposée, ou passer à une voiture électrique. Donc il faut développer les transports en commun, il faut accompagner financièrement pour la rénovation énergétique des bâtiments, et ça, ce sont les politiques qui doivent le mener. Donc je pense qu'il faut aussi remettre la responsabilité là où elle réside réellement.
Léna Lazare, sur aussi ce... On le voit dans les sondages d'opinion sur la radicalité, les Français peuvent la craindre de temps en temps. Ils se disent, oui, en effet, on veut bien changer nos modes de vie, mais là, ça va peut-être trop vite, trop loin. On le voit d'ailleurs dans certaines réactions, je vous lirai juste après, mais vous les comprenez aussi à un moment, les Français qui peuvent être choqués de temps en temps par certains modes d'action?
Bah, je peux comprendre, d'autant plus avec le récit justement qu'il y a dans les médias de certaines actions. Moi, j'étais très attristée et en colère de voir comment on parlait de mon mouvement, les soulèvements de la terre après Sainte-Soline. Certes, il y a eu des affrontements dans une petite partie de la manifestation, mais est-ce que du coup ça veut dire qu'après, à tous les plateaux que je vais faire, il va y avoir que en boucle des camions de police qui brûlent? Enfin, c'est pas très représentatif. On a fait une trentaine d'actions, et à la manifestation à Sainte-Soline, il s'est passé aussi beaucoup de choses que les affrontements. Donc on voit qu'il y a un récit criminalisant assez réducteur, et qu'on fait tout aussi pour que les gens commencent à avoir une mauvaise opinion, une mauvaise opinion de nous. Et ensuite, voilà, c'est de la bataille de la communication, mais c'est vrai qu'on est toujours obligé de se défendre. Mmh. Après, c'est assez intéressant parce que justement, suite à l'histoire de la soupe, etc., dans les pays anglo-saxons,
alors,
il y a une étude
contre les tableaux, voilà, notamment dans les musées.
Oui, oui, une soupe mise sur un Van Gogh, voilà, oui, oui, pardon. oui, non, mais il faut rappeler.
Il est militaire, on prend la fin.
Et il y a une étude qui a été faite donc auprès de la population en Angleterre et qui montre que, en fait, ces actions-là, elle permettait aux personnes qui sont déjà contre d'avoir davantage d'arguments et qu'elle faisait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, etc. Mais que, en fait, chez les personnes qui avaient déjà de la sympathie pour le mouvement écologiste, soit c'était neutre, soit ça renforçait la sympathie. Mais qu'en tout cas, voilà, ça avait peut-être tendance à plus polariser les opinions, mais que ça avait pas un effet négatif en soi. Et donc, c'était intéressant de voir cette étude sociologique-là, parce qu'on dit tout le temps c'est contre-productif. Bon, après, moi, j'estime en effet qu'on n'a pas le choix. Quand des machines arrivent sur un chantier, qu'il y a des recours juridiques en cours, mais qu'on aura peut-être la décision que dans un mois et que pourtant les machines arrivent et vont détruire le terrain, bah, au bout d'un moment, on est obligé de bloquer ce chantier. Mais donc, de toute façon, je ne remettrai pas en question mes modes d'action, mais en plus, on voit que voilà, ça amène pas forcément une opinion négative dans la population.
Alors, via WhatsApp, justement, alors on a ce contraste, c'est ça qui est assez intéressant. D'un côté, il y a François qui nous dit la désobéissance civile, c'est de la délinquance, voilà, tout simplement. Et de l'autre, il y a Dominique alors, qui nous met entre parenthèses, c'est marrant, 71 ans, il dit « Je soutiens les actions dont il m'arrive quelquefois de regretter le caractère violent, mais pour moi, c'est dans ce sens redoutable pour lutter contre le réchauffement climatique. » Et il précise donc qu'il a un certain âge, 71 ans, pour montrer qu'il n'y a pas que les gens plus jeunes même qui adaptent ça. Mais on le voit, en effet, là, Laurence Venn, ce contraste entre dans la population française et même européenne. Tout à l'heure, je parlais en Allemagne, en effet, l'équivalent un petit peu de soulèvement de la terre. Beaucoup d'Allemands disent nous, on n'est pas d'accord du tout avec ce type d'action, mais on est contre le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement allemand veuille entamer des poursuites judiciaires. Vous voyez, on a ce contraste-là.
Oui, oui, c'est évidemment une population n'est pas homogène. Donc forcément, il y a une confrontation d'idées, d'opinions. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de créer du débat, c'est d'en parler. Parce que moi, je suis convaincue que c'est en discutant, en échangeant, et surtout pas surtout pas rester dans nos bulles, mais c'est en échangeant qu'on peut commencer à se comprendre et faire aussi bouger les positions. Je reviens juste sur cette notion de l'auditeur qui disait la désobéissance, c'est de la délinquance.
C'est de la délinquance, oui, c'est ça.
Donc la désobéissance civile, effectivement, c'est enfreindre une loi parce qu'on estime qu'il est légitime de le faire. Et je pense qu'il faut vraiment aussi bien comprendre ce qu'est la désobéissance civile. À un moment donné, et on l'a vu au niveau historique, la discrimination était légale. Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a eu de la désobéissance civile parce qu'il était légitime de dénoncer les discriminations raciales. Donc, la désobéissance civile, elle est légitimée, elle peut tout à fait se justifier parce qu'elle est légitime face à des lois, à un système qui, aujourd'hui, certes, est légal, mais contribue, en l'occurrence, à notre perte si rien ne change.
Allez, on va continuer dans le débat de midi à parler de radicalité écologique. N'hésitez pas à réagir via l'appli France Inter. En attendant, on s'écoute sans fin avec Spirit 2.0.
Ouais, so catch you. Life will catch you. Life will catch you. Spirit gonna catch you, yeah. Lying in reflections, moonlight hits your skin. Safe in conversation, you question where I've been. Two bodies on this mattress. Save me as it sinks. Automatic self-protection. My airbags in my hands. Next thing I'm drifting into open sky. And I don't feel so scared.
dreaming with these open eyes. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Traveling for healing. How far will I go?
Spirit,
it's the way that chain you gave me. That eagle made of gold. Now I'm drifting into open skies. Yeah. And I ain't scared as before, ain't as scared as before. You. Love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you.
From Livingston, seagull, dry cats of continent, free fall. Yeah. I was caught by the wings of my people. Then you picked me up in your two door. Yeah. Hit the country roads, peaceful. And you filled me in with the info. Yeah. Stock was rising like tenfold. But you're more concerned with my mental. Yeah. Shutting down is your default. Circling for the cheat code. Yeah. Sun is out and it feels cold. Camera zoom with the ego. Yeah. Find the bench and we recall. Memories to the people. Yeah. Reconnect with the real goal. Camera zoom on my people.
Inter. Jean-Mathieu Bernin, le débat de midi.
Le débat de midi, nous parlons radicalité écologique. Est-ce qu'il faut être plus radical pour sauver la planète, notamment avec Laurence Venn, qui est directrice de communication chez Greenpeace France, Léna Lazare, porte-parole des Soulèvements de la Terre, également Stéphane Labranche, sociologue du climat. Alors vous réagissez notamment via l'appli France Inter par des messages et des notes vocales. Et on va écouter la note vocale de Frédéric, qui nous appelait depuis la Suisse.
Bonjour, Frédéric, j'appelle de la Suisse. Chez nous, les militants écologistes extrémistes qui bloquent le trafic, se collent les mains sur la route et qui font d'autres actions restent malheureusement impunis par les autorités et la police. Point. Nous avons des élections parlementaires cet automne et nous pensons qu'ils vont prendre vraiment une grosse défaite car la population en a assez de ces extrémistes. Point. Ce qui est d'autant plus fâcheux, c'est qu'ils restent impunis malgré ces actions illégales.
Voilà, Frédéric, donc, il nous parle d'un cas particulier, Suisse. Et donc, Jérôme aussi, alors qu'il fait comme un écho sur la messagerie et donc via l'appli Inter. Je me demande, dit-il, si la radicalisation du mouvement écologiste n'a pas pour racine l'incapacité du mouvement écologiste français à parler d'une seule voix et à participer, par exemple, à un gouvernement, à rentrer dans une politique de compromis. Et on le voit, c'est vrai, est-ce que l'Allemagne n'a pas fait mieux dans ce domaine, puisqu'en effet, aujourd'hui, les écologistes gouvernent en Allemagne avec l'équivalent du PS en France. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, Laurence Venn, parce qu'on se demande aujourd'hui quel impact, est-ce qu'il y a un impact direct entre, par exemple, le soutien à des mouvements, par exemple, que ce soit Greenpeace, que ce soit Soulèvement de la Terre, et au vote écolo. Est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on voit ça? Est-ce que ça peut aider, justement, un mouvement écologiste politique? Ou alors, en France, on a toujours ce problème par rapport à l'Allemagne, en effet, où aujourd'hui, ils sont gouvernement.
Oui, alors on n'est pas du tout dans la même dans le même cas de figure que l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une réelle tradition en fait de composer des gouvernements vraiment de coalition. Donc c'est complètement différent en France. En France, on a eu parfois des ministres de l'environnement qui ont essayé de faire bouger les choses. Malheureusement, ce n'était pas eux qui avaient voix au chapitre puisque les décisions ont été prises au final par au ministère de l'économie et finalement, ils étaient très limités. Hein. Mmh. On se souvient quand même du départ de Nicolas Hulot qui dénonçait les lobbies sur le pouvoir politique et donc l'incapacité dans laquelle il était pour faire changer les choses. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui réellement lutter aussi contre finalement une forme de scepticisme sur le pouvoir politique. Et c'est en ça aussi, Greenpeace, on pense que toute la solution réside dans le politique.
Oui, bien sûr.
Et il faut vraiment que les gens s'engagent et aillent voter. Mmh. Donc, on a vu aussi des niveaux d'abstention extrêmement élevés aux dernières élections. Et on le regrette parce qu'on pense qu'il faut en fait élire des gouvernements qui seront en mesure d'appliquer réellement des programmes ambitieux pour le climat. Mmh. Donc donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire en sensibilisant notamment les jeunes à la nécessité de s'engager et le passage souvent par des associations, par des collectifs, par ces mouvements qui sont nés ces dernières années, c'est un moyen aussi de se politiser, de comprendre les phénomènes. Et dans ce cadre-là, de vouloir aussi faire en sorte que ce soit des gouvernements ambitieux qui soient élus. Et donc ça, c'est vraiment important.
Léna Lazare, vous, justement, sur la politique, c'est quelque chose dans lequel vous croyez aujourd'hui qu'il y a une possibilité, par exemple, s'il y a des mouvements écologistes, s'il y a un gouvernement favorable, ou alors vous n'y croyez pas du tout?
Je pense qu'il faut être présent partout où on le peut. Là, typiquement, quand on demande un moratoire contre les méga-bassines ou par exemple contre les fermes-usines, ce qui va être le cas cet automne, parce qu'il y a une grosse loi agricole, nous, lorsqu'on fait des mobilisations de terrain qui mettent vraiment la pression, en même temps, s'il n'y a pas des parlementaires à côté pour porter justement des lois qui sont à la hauteur des enjeux, on a quand même du mal à arracher des victoires. Donc moi, le choix que j'ai fait, en tout cas, c'est de faire partie de ces gens qui, à l'extérieur du système politique institutionnel, font pression sur ce dernier. Mais c'est important aussi en fait qu'il y ait des personnes qui s'investissent en politique. Après, je suis d'accord, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de militants qui sont pas, dans mon cas, qui ne vont plus voter parce que parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert plus à rien. Mmh. Et il y a vraiment aussi, je pense, cette impression là. Dans la jeunesse aussi. Mais je pense que là, il y a de plus en plus une prise de conscience aussi qu'en face, ils ne se posent pas des questions de voter pour quelqu'un qui est vraiment en accord avec ses idées totalement, et que face à la montée de l'extrême droite, face à des gouvernements qui ne font rien en fait pour le climat, pour l'écologie, il y a aussi la nécessité de voter, même si c'est imparfait, et que je pense qu'en effet, c'est pas parce qu'un gouvernement écolo ou de gauche va arriver au pouvoir que d'un seul coup, on va avoir vraiment de nombreuses lois à la hauteur des enjeux qui arrivent. Enfin, on peut reprendre l'exemple du Front Populaire, où il a fallu quand même aussi qu'il y ait des manifestations gigantesques en fait, pour que toutes les lois sociales qui en ont émergé, vraiment soient actées. Et je pense qu'il y a toujours cette nécessité de faire pression sur le politique quoi qu'il arrive, mais que autant se faciliter la tâche avec un gouvernement de gauche.
Oui, Stéphane, votre avis, Stéphane Labranche, on le voit en effet, ces relations entre engagement radical et prise de conscience politique et politique institutionnelle, c'est pas forcément. Hein, c'est pas aujourd'hui quand on le voit en France, en effet, on voit des plus jeunes qui préfèrent s'engager dans ce type d'association ou collectif plutôt que de s'engager en politique.
Oui, c'est normal, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine désaffection avec la politique, mais faut pas oublier non plus que l'idée que le politique peut tout et c'est la solution finale est une idée très française, parce que ce n'est pas partagé dans les autres pays. Mais moi, je voulais revenir pour terminer, je pense,
oui.
Mais je voulais revenir sur un point que Léna a mentionné deux fois et que je trouve super intéressant, c'est la diversité des moyens d'action. En fait, il faut moi, je, puis on voit que le mot lutte, combat, etc. sont beaucoup utilisés. Moi, je vois ça comme un combat d'art martial, en fait, où celui qui gagne n'est pas celui qui est le plus fort, le plus rapide, c'est celui qui a les meilleures stratégies pour répondre, en fait, aux forces et aux faiblesses de l'autre. Et donc, face à un certain public en matière de communication, il faut parler de certaines manières. Face à des politiques publiques, il ne faut pas leur parler grand débat, il faut leur dire comment la politique publique peut être construite, quels effets ça peut avoir et comment s'assurer que ça n'a pas des effets négatifs sur la population, notamment sur la précarité, par exemple. Dans les accompagnements, l'accompagnement pour les ménages, c'est bien beau dire diminuer votre facture de 20%, oui, mais comment? Comment je deviens végétarien? Comment je cuisine? Comment je m'habille quand il fait froid? Je vais un peu loin, mais en fait, dans les études en sociologie sur les questions des freins au changement, beaucoup de gens sont d'accord avec l'idée de tenter de changer, mais quand arrive le moment de le faire, c'est tellement lourd, tellement difficile, avec toute la charge qu'on peut avoir, avec les enfants, le sport, le travail, les déplacements, les bouchons, etc., qu'à un moment donné, on se dit, ben là, j'en peux plus, je veux juste me regarder la télé soir.
Donc pour vous, donc, ça cesse au pouvoir public de le faire, ça.
Ben, c'est au pouvoir public, hein, de tenter de développer des modes d'accompagnement hyper opérationnels pour les gens. Dernier point là-dessus, c'est ce qu'on fait plutôt mal, en fait. Dans les agences de communication gouvernementales, quelles qu'elles soient, ils nous disent visez cet objectif, ils ne disent pas comment. Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut vraiment mieux travailler, parce que sinon, on n'arrivera à rien.
Un mot, juste Léna Lazare, à propos, il y avait un autre groupe dont on avait beaucoup parlé avant de faire connaissance avec vous, qui était Extinction Rebellion. Juste une chose, c'est vrai qu'ils ont fait, eux, le choix de changer un peu de tactique. C'est-à-dire que pas seulement des actions, en effet, revendicatives, mais aussi des conférences, des débats, des rapports. Est-ce que vous imagineriez aller vers ça, un peu comme l'a fait Greenpeace, finalement? Par exemple, vous faites des rapports, on se souvient le rapport là où vous avez remarqué qu'il était plus, il était moins cher de prendre l'avion, par exemple, que le train cet été, et aussi de faire des actions. Est-ce que vous aussi, vous iriez plutôt dans ce sens-là?
Ce qui est intéressant avec les soulèvements de la Terre, c'est qu'on est un mouvement national qui met en avant, en fait, des luttes locales qui ont besoin de passer à l'échelon supérieur pour gagner. Des luttes contre des projets polluants et imposés. Mais ces luttes, en fait, au quotidien, elles agissent en faisant des recours juridiques, en faisant des manifestations, potentiellement en produisant des contre-expertises. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on considère qu'il y a une complémentarité des tactiques dans le mouvement écologiste, mais que c'est bien, tout le monde a sa spécialité. Greenpeace fait des gros dossiers, du plaidoyer. Nous, ce qu'on peut pas faire, en fait, on n'a pas les capacités de faire ça. Par contre, on fait des grosses manifs et des actions.
C'est bien noté. Merci beaucoup, en tout cas, Léna Lazare. Merci à Laurence Venn d'être passé en studio au débat de midi. Merci à Stéphane Labranche et merci aux moyens techniques de France Bleu Isère qui nous ont permis d'entendre votre magnifique voix à travers les tuyaux. Également à la technique, il y avait Rémi Sistiaga, émission réalisée par Étienne Bertin et préparée par Constance Villanova, Aloïse Nollet, Mathilde Texier, Savannah Ruelland. Le débat de midi revient demain, bien sûr.